Un jour, un livre, un auteur, Philippe Noni, Diego Arrabal, on ne les présente plus sur Radio Présence. Et allez, je veux dire que c'est un peu ma petite bouffée d'oxygène chaque semaine de vous retrouver à tous les deux, parce que en dehors d'être des chroniqueurs, on est devenus des vrais amis.
Oui, c'est une bouffée d'oxygène partagée. Bonjour Philippe Tubercaz, bonjour Diego Arrabal.
Bonjour les deux Philippe.
Voilà, c'est une amitié effectivement partagée.
Je vous sens très impatient aujourd'hui, Philippe Noni, parce que alors oui. Vous n'avez pas forcément un invité, vous avez quand même une invitée qui va venir, puisqu'elle est professeure, elle était avec nous la semaine dernière, et vous allez nous la présenter, pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière. Mais
comment ça, il y a des gens qui ne nous ont pas écoutés la semaine dernière?
C'est pas possible ça, Philippe Tubercaz.
C'est parce qu'ils avaient
ils
avaient un problème de genou, certains. Donc... Et donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. C'est vraiment parce que vous êtes un partisan de la paix et vous analysez beaucoup les conflits pour essayer de les éviter. Alors on va vous laisser présenter le livre qui a retenu votre attention aujourd'hui.
Alors, le livre qui a retenu notre attention aujourd'hui, je vais en parler, je vais le présenter après. On a, vous l'avez cité tout à l'heure, Philippe Tubercaz, donc Bérengère, la Nomarancy, qui était là la semaine passée pour Le Cœur dans les Étoiles, donc aux éditions Maya. On l'a fait revenir, pourquoi? Parce qu'en filigrane de son roman, elle parle de la guerre. Et dans le contexte actuel, effectivement, qui est le nôtre, c'est vrai que c'est pas forcément indifférent, effectivement, que de l'inviter. Puis vous allez voir que le livre dont on va parler, il a eu un destin, et l'auteur qui l'a fait va lui aussi avoir un destin dans les semaines et les mois qui viennent. Je ne vais pas dire pourquoi, je vais le dire dans la suite de ce que je vais présenter. On devrait se préoccuper davantage de la façon dont meurent les universitaires quand il leur arrive de ne pas mourir de maladie ou de vieillesse, écrivait le philosophe Georges Canguilhem. Aujourd'hui, nous ouvrons justement une page spéciale sur un universitaire fusillé par la Gestapo le 16 juin 1944 et qui sera, sur décision du président de la République Emmanuel Macron, panthéonisé en 2025, sans que pour autant personne ne sache encore aujourd'hui quelle est la date à laquelle ça va se dérouler. Dans le contexte international dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, avec la guerre en Ukraine, cet homme a tout d'un héros moderne qui nous interpelle. Jugez plutôt. Cet enseignant universitaire, historien, juif, devenu soldat durant la Première Guerre mondiale, puis durant le Deuxième Conflit mondial, a été décoré et a reçu des citations militaires durant les deux conflits. Et cet historien, qui eut le tort d'être juif pour certains et résistant après 1940, écrira un livre qui ne sera publié qu'après sa mort. Ce livre, L'étrange défaite, publié en livre de poche chez Folio, est une description détaillée de la bataille de France et de ce que l'historien Marc Bloch va analyser à chaud avec une acuité étonnante et toute la rigueur universitaire qui fut la sienne. Marc Bloch, L'étrange défaite, c'est le livre qu'il écrit en 1940 et dont il ne verra jamais l'édition, puisque le livre sera publié après-guerre par ses descendants. Diego Arrabal, vous qui êtes un ancien universitaire, Marc Bloch, ça vous parle ?
Tout à fait, tout à fait. Moi, j'ai fait mes études dans une université qui s'appelait Marc Bloch, qui s'appelle toujours d'ailleurs Marc Bloch, même si elle porte le nom maintenant beaucoup plus large d'université de Strasbourg, l'Unistra, mais il y a deux universités qui se côtoient, c'est Marc Bloch et l'université de sciences humaines et l'université Louis Pasteur qui est l'université de sciences dures.
Bérengère Nomarancy, ça vous parle, Marc Bloch ?
Non, pas exactement. Mais j'ai envie vraiment de découvrir cette lecture et ce témoignage, ces témoignages, parce que je pense que ce sont des témoignages qui vont parler aussi aux jeunes. Intéressant.
Alors, on va revenir à Marc Bloch. Hein, vous le disiez, Diego Arrabal, à l'instant, donc l'université Marc Bloch à Strasbourg. Alors, ce n'est pas un hasard, hein, puisque Marc Bloch, c'est une famille alsacienne d'origine. Et en 1870, à l'issue de la guerre avec la Prusse, la France perd l'Alsace et la Lorraine, et les Alsaciens décident de ne pas rester en Prusse, de ne pas devenir prussiens, et optent pour un exil volontaire, alors qu'ils étaient là depuis des siècles, un exil volontaire vers la France afin de justement rester français. Ce fut le cas des ancêtres de Marc Bloch, qui choisiront, durant la Première Guerre mondiale, qui choisiront effectivement cette destinée. Et durant la Première Guerre mondiale, Marc Bloch, adjudant dans l'armée française, aura d'ailleurs plusieurs citations militaires dont je vais vous faire ici la lecture. C'est en page, pour ceux qui achèteront donc le livre, en page 299 de ce livre. Ordre général numéro 2 du 19 janvier 1915. Le colonel Hirdmarn, commandant la 350e brigade d'infanterie, cite à l'ordre de la brigade l'adjudant Bloch, Marc, du 72e régiment d'infanterie, je cite, a conduit sa section de façon très énergique et a montré le plus grand mépris du danger. Ordre de la division numéro 15, du 3 avril 1916, le général commandant la 125e division d'infanterie cite à l'ordre de la division 72e régiment d'infanterie Bloch Marc, 4e compagnie, je cite, excellent chef de section qui a déjà été cité à l'ordre de la brigade, est toujours prêt à marcher volontairement lorsqu'il s'agit de remplir une mission dangereuse. Dans la nuit du 24 au 25 mars 1916, pendant que la compagnie voisine de la sienne exécutait un coup de main sur une tranchée et demie, a dirigé avec beaucoup d'intelligence et de sang-froid un détachement de grenadiers chargé d'attirer l'attention de l'ennemi dans une fausse direction. Ordre de la division numéro 47 du 17 novembre 1917. Le général Arlabos, commandant la 87e division d'infanterie, cite à l'ordre de la division Bloch Marc Léopold Benjamin, lieutenant au 72e régiment d'infanterie. Je cite, excellent officier de renseignement au cours des dernières opérations d'octobre 1917, a assuré avec intelligence, avec une inlassable activité et une très grande bravoure le service d'observation dans le secteur de la division. Son observatoire ayant été renversé par un projectile ennemi et soumis à un tir d'obus spéciaux, a continué néanmoins son service en se tenant à découvert dans la tranchée, donnant ainsi à son personnel un bel exemple de courage et de sang-froid, a fourni au commandement des renseignements précieux sur la physionomie du combat, déjà cité deux fois. Ordre de la division numéro 115 du 6 juillet 1918. Le général Ders, commandant la 87e division d'infanterie, cite à l'ordre de la division Bloch Marc Léopold Benjamin, lieutenant, officier de renseignement au 72e régiment d'infanterie, je cite, officier remarquable, tant par les sentiments élevés qu'il anime que par la haute compétence dont il fait preuve dans ses fonctions d'officier de renseignement, sa très grande activité et son mépris absolu du danger. Dans la période des attaques, a fait plusieurs reconnaissances périlleuses au cours desquelles il dut parcourir à plusieurs reprises des zones violemment bombardées. A pu rapporter ainsi à son chef de corps des renseignements précieux qui ont aidé à la réussite des opérations. A donné, en outre, un bel exemple de crânerie et de froide résolution dans l'accomplissement de ses missions. Marc Bloch sera également cité durant la Seconde Guerre mondiale, où la guerre ne va durer qu'un mois. Ordre général numéro 7 du 29 juin 1940. Le général d'armée Blanchard, commandant le groupe d'armée numéro 1, cite à l'ordre du corps d'armée le capitaine Bloch, du 4e bureau de l'état-major de la 1ère armée. Je cite, « Au cours des opérations en Belgique, a assumé la lourde tâche de l'organisation et de l'exécution des ravitaillements en carburant, a fait preuve dans des conditions toujours difficiles, d'un sens avisé, d'une méthode sûre, d'une énergie tenace, et a permis l'exécution des mouvements fixés par le commandant. » On voit donc qu'en 1940, c'est quelqu'un effectivement qui continue. On sait qu'il y a la défaite. On sait ce qui s'est passé ensuite pour les gens effectivement qui étaient de confession juive. Il était historien, il était enseignant. On lui a retiré effectivement son enseignement. Et Marc Bloch, effectivement, décide de rentrer dans la résistance. Mais avant de rentrer dans la résistance, il va écrire ce livre dont j'ai parlé, L'étrange défaite. Et ce livre comprend plusieurs parties. La première chose, la présentation du témoin. Il explique qui il est, pourquoi il le fait, le recul effectivement méthodologique qu'il n'a pas forcément, mais qu'il essaye malgré tout d'avoir, la déposition d'un vaincu, l'examen de conscience d'un Français, pourquoi je suis républicain, l'alimentation humaine, la vraie saison des juges, un philosophe de mode compagnie, à propos d'un livre trop peu connu et sur la réforme de l'enseignement. Sur ce dernier point, pour vous qui êtes enseignante, il explique effectivement que pour lui, la défaite de 1940 est avant tout une défaite intellectuelle, c'est-à-dire l'incapacité des élites françaises à comprendre avec les moyens modernes comment on peut mener effectivement une guerre, notamment durant la Seconde Guerre mondiale. Et lui en parlera très tôt. Il aura la même acuité que le général de Gaulle, qui réécrira effectivement un livre sur les chars.
À la fin de la Deuxième Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale.
La Première Guerre mondiale. Cette réflexion, donc, et les différentes parties de ce livre, hein, donc L'étrange défaite, vise à expliquer comment la défaite de la France en 1940, donc je le disais à l'instant, est d'abord une défaite intellectuelle avant de devenir une défaite militaire. C'est là où je trouve que tout le raisonnement qu'il produit est extrêmement intéressant. Donc il convient, je le disais, pour les auditrices et les auditeurs de cette émission littéraire, de se procurer L'étrange défaite de Marc Bloch, pas uniquement parce qu'il va rentrer au Panthéon, mais bien parce que ce texte a des accointances étranges avec l'actualité d'aujourd'hui et les étranges frontières qui y sont parfois tracées. Voilà ce que Marc Bloch écrit en page 31 de L'étrange défaite. Je suis juif, sinon par la religion que je ne pratique point, non plus que nul autre, du moins par la naissance. Je n'en tire ni orgueil, ni honte, étant, je l'espère, assez bon historien pour n'ignorer point que les prédispositions raciales sont un mythe et la notion même de race pure, une absurdité particulièrement flagrante lorsqu'elle prétend s'appliquer comme ici à ce qui fut en réalité un groupe de croyants recrutés jadis dans tout le monde méditerranéen, turco-khazars et slaves. Je ne revendique jamais mon origine que dans un cas, en face d'un antisémite. Mais peut-être les personnes qui s'opposeront à mon témoignage chercheront-elles à le ruiner en me traitant de métèque. Je leur répondrai sans plus que mon arrière-grand-père fut soldat en 1793, que mon père en 1870 servit dans Strasbourg assiégé, que mes deux oncles et lui quittèrent volontairement leur Alsace natale après son annexion au Deuxième Reich, que j'ai été élevé dans le culte de ces traditions patriotiques dont les Israélites de l'exode alsacien furent toujours les plus fervents mainteneurs. Que la France, enfin, dont certains conspireraient volontiers à m'expulser aujourd'hui, et peut-être, qui sait, y réussiront, demeurera, quoi qu'il arrive, la patrie dont je ne saurais déraciner mon cœur. J'y suis né, j'ai bu aux sources de sa culture, j'ai fait mien son passé, je ne respire bien que sous son ciel, et je me suis efforcé à mon tour de la défendre de mon mieux. Voilà ce qu'il écrit, donc, à l'issue de la défaite en 1940, c'est-à-dire au moment où la France, effectivement, donc, on est sur des mots qui sont extrêmement forts, et je trouve, c'est pour ça que je voulais le présenter avant même, effectivement, qu'il ne soit panthéonisé, puisque, bon, le président de la République, je suppose, lira, effectivement, tous ces extraits que l'on fait là, et je souhaitais, moi, qu'auprès des auditeurs de présence, et des auditrices, on puisse aussi, effectivement, présenter ce livre pour que les gens le lisent avant même effectivement qu'ils ne reçoivent l'hommage de la nation. Je précise que vous verrez que l'histoire donc de Marc Bloch, je le répète, hein, qui est un historien, qui est juif, qui va être fusillé le 16 juin 1944 par la Gestapo parce qu'il est devenu résistant, parce qu'il refuse que la nation effectivement ne tombe, que lorsqu'il est près de Dunkerque, il s'échappe pour ne pas se rendre aux Allemands. Il refuse de se rendre aux Allemands. Donc il va enlever son uniforme, se mettre en habit civil, passer à travers les lignes, sachant qu'il est juif, et que donc, effectivement, il prend un risque réel. Voilà. Et je trouve effectivement que c'est un livre particulier, effectivement, qu'il faut découvrir et faire lire, donc, au maximum de personnes. Je vais vous lire un autre passage. Il écrit, toujours dans L'étrange défaite. Je suis revenu de la précédente guerre avec 4 citations. Je ne pense pas me tromper en supposant que, si l'entrée inopinée des Allemands à Rennes avait été nette les propositions de la première armée, je n'aurais pas regagné mes foyers après cette guerre aussi, sans un ruban de plus sur ma vareuse. En 1915, après une convalescence, j'ai rejoint le front avant mon tour comme volontaire. En 1939, je me suis laissé maintenir en activité malgré mon âge et mes 6 enfants, qui m'avaient depuis longtemps donné le droit de pendre au clou mon uniforme. De ces faits et de ces témoignages, je ne tire nulle vanité. J'ai pour cela vu trop de braves et humbles gens accomplir leurs devoirs sans emphase, beaucoup mieux que moi, et dans des conditions beaucoup plus difficiles. Simplement, si le lecteur, tout à l'heure, devant certains propos d'une franchise un peu rude, se sentait tenté de crier au parti pris, je lui demande de se souvenir que cet observateur, ennemi d'une molle indulgence, ne servit pas contre son gré et ne fut point, par ses chefs ou ses camarades, jugé un trop mauvais soldat. Voilà maintenant l'exact bilan de ce qu'il m'a été donné de faire et par conséquent de voir dans la dernière guerre. Comme je l'ai dit plus haut, je m'étais dans l'intervalle entre les deux guerres constamment refusé à profiter des dispositions législatives qui m'auraient permis d'échapper à toute obligation militaire. Mais bien qu'inscrit dès 1919 au service d'état-major, je ne me pliais jamais à suivre le moindre cours dit de perfectionnement. Dans le principe, je reconnais que j'eus tort. Mon excuse est que ces années-là, précisément, se trouvèrent coïncidées avec la période de ma vie durant laquelle j'ai tant bien que mal produit l'essentiel de mon œuvre d'historien qui me laissait bien peu de loisirs. Ma consolation, je la puise dans les expériences même de la campagne. Assurément, le reflet de l'enseignement de l'école de guerre auquel je me suis ainsi soustrait ne m'eut inspiré que bien peu d'idées justes. Comme l'armée de ce temps estimait avant tout les bons élèves, elle ne manqua point de me tenir rigueur de mon obstinée école obissionnaire. Elle sut même m'en punir doublement. Capitaine de 1918, je n'avais pas cessé de l'être en 1938 lors de ma première mobilisation. Capitaine, je me retrouvais encore au mois d'août 1939, malgré une proposition d'avancement signée par les chefs qui m'avaient vu au travail. Capitaine, toujours, lorsque le 11 juillet 1940, je déposais l'uniforme. Tel fut mon premier châtiment, qui m'a laissé sans rancune, comme sans tristesse. Le second m'atteignit dans mon affectation de mobilisation. Voilà un peu, donc je vous lis, on est dans présentation du témoin, dans la première partie, donc présentation du témoin, M. Marc Bloch. Ça vous inspire quoi, Bérangère Lannou-Marancy, tout ce que j'ai lu?
C'est un fort témoignage pour moi. Enfin, ce que je ressens là, c'est la nécessité. C'est une nécessité. La nécessité de lire ces textes pour... c'est simplement un devoir de mémoire. C'est-à-dire lire ces textes pour montrer combien ces hommes ont été courageux et au prix de leur vie. Et voilà, je pense que c'est important, c'est précieux. Ce sont des témoignages précieux sur ces conflits et comment un soldat perçoit ce conflit. Pour moi, c'est un livre à lire de toute urgence concernant...
C'est un livre que vous connaissiez en tant qu'enseignante ou
non
pas?
J'avais entendu parler de Marc Bloch, mais voilà, je ne connais pas. Voilà, je découvre et c'est très bien.
C'est très bien. Diego Arrabal, c'est un livre, L'étrange défaite, que vous aviez lu, que vous connaissiez?
Alors c'est un livre non pas que j'ai lu, que je connaissais. Je savais qu'il l'avait écrit, je savais que c'était un rapport d'historien sur de l'histoire contemporaine qui était en train de se vivre. Je ne l'ai pas lu, j'ai lu d'autres livres de Marc Bloch, notamment un livre sur le métier d'historien, sur qu'est-ce que ça présuppose. Et je trouve que là, il va même au-delà, puisque dans le métier d'historien, il explique bien qu'on travaille sur des traces. Là, il travaille sur les traces qui sont les siennes, c'est-à-dire ce qu'il a vécu, avec une rigueur d'historien. Donc c'est quand même un sacré boulot, parce que ça, c'est pas donné à tout le monde.
Alors je précise que ce texte, en fait, il va l'écrire. Il va le confier donc à une personne parce qu'il sait qu'en tant que juif, effectivement, s'il est attrapé, le texte peut disparaître. Il veut laisser ce texte pour qu'il soit publié après la fin de la guerre. Et en fait, un jour, les Allemands investissent la maison de l'homme qui va garder ce texte. Et cet homme se dit non, je ne peux pas garder ce texte comme ça. Je vais l'enterrer dans le jardin jusqu'à la fin de la guerre. Ce qu'il va faire, il va l'enterrer. Et à la fin de la guerre, sachant où il l'a mis, il va le déterrer. Il va contacter les descendants, hein, il avait 6 enfants, Marc Bloch, pour effectivement leur remettre ce document, ce témoignage de la première guerre, de la deuxième guerre mondiale, pardon, fait à l'issue donc, de la campagne de France, et ses enfants ont décidé de le publier. Et donc, on va dire que ce livre, il était un peu, je ne dirais pas qu'il était tombé dans l'oubli. Hein. Moi, j'en ai entendu parler, donc, vous voyez, à Noël l'année dernière, dans une émission sur France Culture, qui parlait effectivement de la future panthéonisation décidée par le président de la République, donc de l'écrivain, historien, soldat durant la Première et Deuxième Guerre mondiale, résistant Marc Bloch, fusillé par la Gestapo, donc en 1944. Et résistant, historien, juif, donc mis de côté pendant la guerre, et malgré tout, il aurait pu dire, puisque la France me met de côté, je décide de la quitter, ben non. Il décidera d'y rester jusqu'au bout, au sacrifice de sa vie. Voilà. Ce témoignage, je trouve qu'aujourd'hui, alors, je voulais en parler, parce que dans le contexte, encore une fois, hein, je le rappelle, de la guerre en Europe dans laquelle effectivement on se trouve, hein, qui vient quelques temps après donc les déclarations du président de la République, cette réunion donc qui a eu lieu au niveau des chefs d'État européens sur la volonté de réarmer, sur le fait de laisser de côté les 3% donc de déficit des critères de Maastricht dès lors qu'il s'agit donc des dépenses de défense. On est voilà sur quelque chose qui nous fait rentrer, je ne sais pas si tout le monde en a conscience, mais dans un monde qui n'est plus le monde que l'on a connu donc, auparavant, qui est un monde inquiétant, où il y a des frontières qui sont mouvantes, et puis on ne sait pas effectivement de quoi sera fait demain. Donc je trouve que c'est important d'en parler et vraiment de le lire. Parce que c'est un livre vraiment... c'est un livre qui se lit très facilement, qui se lit un peu comme un témoignage à chaud, c'est-à-dire comme si on entendait une émission à la radio. J'avais l'impression d'entendre la voix de Marc Bloch, effectivement, qui disait l'ensemble, effectivement, de ces événements. Là, je précise, c'est l'université de Strasbourg, puisqu'il était alsacien, qui a pris son nom. Donc, en fait, quand je le précisais tout à l'heure, hein, je le redis pour les personnes qui prendraient donc l'émission en cours de route, hein, où on parle du livre de Marc Bloch, L'étrange défaite, hein, qui va être donc personnage emblématique, hein, qui va être panthéonisé donc, sur la décision du président de la République sans qu'on ne sache, comme je l'ai dit tout à l'heure encore, quelle sera la date donc, de panthéonisation sur 2025. C'est quand même un homme, effectivement, qui est juif, et on sait que lorsque les lois juives vont être produites alors par l'État français, hein, c'est comme ça que c'est appelé l'État lorsque la République française, lorsque le maréchal Pétain est arrivé. Hein, ce sont les lois qu'ont pris l'État français, et donc ben, Marc Bloch était historien, ben, du jour au lendemain. Voilà, on lui a dit, monsieur, malgré vos citations, c'est pour ça que je le lisais tout à l'heure, durant la Première Guerre mondiale, durant la Seconde Guerre mondiale, malgré vos médailles, voilà, vous ne serez pas... vous n'aurez pas la possibilité effectivement de pouvoir exercer ces différents de pouvoir continuer les prérogatives de votre poste quoi. Donc c'est pas neutre du tout quoi. Donc voilà, je vais vous lire là par exemple un des rapports qu'il a fait sur la destruction, vous allez voir, donc c'est durant la Deuxième Guerre mondiale, c'est en page 296. C'est la retraite à laquelle la première armée à laquelle il appartenait, donc ce qu'il vit. La retraite à laquelle la première armée s'est trouvée contrainte imposait de prendre au fur et à mesure du recul les mesures nécessaires pour que les ressources en carburant forcément abandonnées par l'armée ne puissent tomber intactes entre les mains de l'ennemi. Les procédés de destruction avaient été étudiés soigneusement durant la période d'attente. Le mélange à l'essence et au gasoil de produits de nature à les rendre inutilisables, tels que le goudron et le sucre, avaient paru peu pratiques. Ces procédés, qui semblent avoir eu les préférences de l'armée britannique, offrent en effet l'inconvénient de ne pas être décisifs. Au bout d'un certain temps, les produits ainsi introduits dans les bacs risquent de se déposer au fond. À supposer même que ce dépôt n'ait pas lieu, une nouvelle distillation suffit pour que les carburants redeviennent propres à être employés dans les moteurs. La mise à feu avait été retenue comme le seul mode de destruction vraiment efficace. C'est donc par le feu qu'ont été détruits les dépôts d'emballage ou les bacs successivement abandonnés. Les destructions se sont opérées sans accident de personne et grâce au dévouement des officiers, gradés et hommes du PUI. Alors il ne met pas ce qu'est le PUI, avec la plus grande régularité. Seuls ont fait exception, le dépôt de Saint-Quentin, qui lors de l'avance allemande échappa au contrôle du commandant du PUI et un des dépôts de Lille que le détachement chargé de le détruire ne put atteindre parce que l'armée britannique avait coupé les ponts sur le canal et en interdisait la traversée. Ces deux dépôts mis à part, il est possible de donner l'assurance que des dépôts situés en territoire belge jusqu'à ceux de l'agglomération lilloise, aucun de ceux de l'armée avait dû renoncer à utiliser, n'a pu être employé par l'ennemi. Sur l'ordre particulier donné verbalement par M. le général Prioux, les camions-citernes ont été vidés et leurs réservoirs percés dans la nuit du 28 au 29 mai, avant la retraite des derniers éléments de l'armée, depuis la région de Lille jusqu'à la côte donc Dunkerque. Donc on voit quand même quel a été cet homme. Je vous ai lu tout à l'heure donc les citations militaires. C'est vraiment un livre qu'il faut lire. Hein. Marc Bloch, L'étrange de défaite, c'est chez Folio, c'est un livre de poche. Et moi, je voulais conclure cette émission donc en disant que, en lisant L'étrange défaite, hein, vous découvrirez, donc de Marc Bloch, vous découvrirez l'histoire d'un homme, un historien juif, fusillé le 16 juillet 1944, qui a fait les deux guerres, qui a eu plusieurs citations, Première Guerre mondiale et Deuxième Guerre mondiale, qui a été décoré, et qui, à mon sens, a bien mérité la nation, et qui a largement mérité son entrée au Panthéon. Donc moi, ce que je voulais terminer par cette phrase en disant je vous salue, Monsieur Marc Bloch. Voilà, je voulais terminer là-dessus.
Voilà, bravo. Merci beaucoup, merci. Philippe Noni. Merci. Merci aussi à Diego Rabal. Et merci aussi à votre invité.
Et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
On parlera la semaine prochaine de Jean Giono, refus d'obéissance. Elle en parlait tout à l'heure, Bérangère.
On va rester dans le milieu de
voilà,
la guerre.
Tout à fait.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.